Mais t'es qui toi?
Une émission réalisée par le groupe MAPS du collège Marcel Pagnol.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre podcast T'es qui toi, avec aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque nous serons deux à ce micro pour vous la présenter. Il y a Angelina dont vous connaissez déjà la voix et moi Marie.
Bonjour Marie, en effet, un épisode exceptionnel de T'es qui toi. Je vous rappelle le principe de ce podcast. Le groupe MAPS du collège Marcel Pagnol est allé à la rencontre des personnes travaillant au collège pour faire découvrir leur métier.
Oui Angelina, et comme annoncé, une émission particulière et exceptionnelle aujourd'hui, où nous recevrons Emeric et Benjamin. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Qui avez-vous interrogé?
Nous avons interrogé Madame Deloire, principale du collège.
Très bien, commençons à écouter votre interview.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes bien Madame Deloire, chef d'établissement de Marcel Pagnol?
Ah, je confirme.
Bien, êtes-vous disposé à répondre à nos 7 questions?
Très volontiers, je trouve que ce projet est très intéressant.
Eh bien, nous aussi. Première question, que faites-vous en tant que principal du collège Marcel Pagnol?
Alors, un principal, donc, c'est un chef d'établissement. Donc, je suis à la fois responsable de tout ce qui s'y passe, avec bien sûr le conseil d'administration qui aussi valide les choix que l'on peut proposer en équipe avec les enseignants. Le conseil d'administration, vous savez, il y a des élèves, des parents, des professeurs, des administratifs, il y a même des élus locaux qui valident donc tout ce qui se fait au collège.
J'étais pas au courant des élus locaux pour le coup, j'étais au courant des élèves qui pouvaient être avec les assemblées, mais je n'étais pas au courant du début.
D'accord, donc par exemple, il y a monsieur le maire de Tonnet-Bouton qui est membre de notre conseil d'administration.
Ok.
Donc je suis responsable de tout ce qui s'y passe et puis je dois aussi accompagner tous les projets que les enseignants mettent en place. Je dois aussi par exemple veiller à la sécurité de tout le monde. Vous rappelez, on fait régulièrement des exercices, confinement, incendie. Donc ça, c'est une partie de la sécurité. Je gère aussi tout ce qui est financier, puisque faire en sorte que vous passiez toute la semaine à l'école avec vos professeurs, ça nécessite des dépenses et des recettes, puisque par exemple, on encaisse les chèques des familles pour la cantine. Donc il y a tout un tas d'échanges financier, et c'est aussi Madame Rodriguez, la gestionnaire, l'adjointe gestionnaire, qui m'aide dans cette tâche. J'ai aussi, par exemple, la mission d'échanger avec les professeurs sur leur carrière, sur leur méthode, sur la façon dont ils peuvent faire évoluer leur enseignement. Donc, voilà, j'ai tout un tas de missions.
De responsabilité.
Voilà, il y a aussi par exemple tout ce qui est les échanges avec les familles. Je peux recevoir une famille, je peux faire une réunion pour des parents d'élèves de tel ou tel niveau. Voilà, quand il y a des situations complexes, on est amené à y réfléchir avec l'infirmière, l'assistante sociale, le CPE ou la CPE, le psychologue scolaire. Je ne travaille pas seule, bien sûr, à faire tout ça.
Heureusement, parce que un homme ou une femme seule à faire tout ça, c'est impossible. Et ça serait 24 heures sur 24 sur le bureau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de différentes tâches.
Voilà, on travaille le plus possible en équipe.
Deuxième question, est-il difficile de faire le métier de principal?
Difficile, je ne sais pas en juger puisque je ne connais pas tous les autres métiers, je ne peux pas comparer. Je pense que chaque métier a ses bons côtés et ses difficultés. En tout cas, c'est prenant. Ça me demande beaucoup de temps par jour. Même quand vous n'êtes pas au collège, moi parfois j'y suis encore et vos professeurs aussi. On a pas mal de réunions le soir par exemple. Et puis pour préparer la rentrée des classes au 1er septembre, nous on est là par exemple 15 jours avant pour faire les emplois du temps, regarder si tout le matériel est disponible, regarder où en sont les inscriptions des élèves, etc. Donc, une des grosses contraintes de ce métier, en tout cas, c'est le temps consacré à ce travail. Je suis à peu près certaine que j'y passe quasiment 50 heures par semaine. Donc, c'est une semaine assez chargée.
C'est pas mieux.
Mais il y a aussi beaucoup d'avantages et de choses plaisantes. Premièrement, c'est la satisfaction de remplir une mission, de service public, de rendre un service à une population, en l'occurrence à des élèves, pour faire en sorte qu'ils réussissent le mieux possible en fonction de leurs capacités, leurs études, qu'ils construisent leurs projets. Et puis aussi qu'on les accompagne vers la citoyenneté, à prendre des responsabilités, à avoir des comportements solidaires, respectueux. Voilà, tout ce qui peut contribuer à fabriquer la société de demain aussi. Ça, pour moi, c'est d'une grande importance. Et ça fait oublier un peu les difficultés, parce que je trouve que cette mission est vraiment... importante pour vous et puis pour la société de demain.
C'est comme vous disiez la dernière fois quand on est parti au collège au cinéma, vous représentez le collège, donc ayez une attitude exemplaire.
Voilà, ça fait partie des petits mots que je peux vous adresser directement ou des actions qu'on peut faire plus collectivement pour vous apprendre à être un citoyen. Ça veut dire à la fois pouvoir décider de certaines choses, pouvoir voter, pouvoir faire partie d'une association, d'un conseil municipal, etc. Tout ça, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça se construit au cours de sa scolarité, puis de son parcours de vie après.
Troisième question. Est-ce que Marcel Pagnol est votre premier établissement?
Alors, pas du tout. Parce que, vous savez pas mon âge, mais vous devinez que je ne suis pas tout à fait dans la vingtaine ou dans la trentaine.
J'ai ma petite idée.
Donc, je suis à un stade de ma carrière où j'ai déjà fait de nombreux établissements dans plusieurs académies différentes. Puisque j'ai commencé ma carrière en tant que professeur de SVT dans l'académie de d'Amiens, c'est-à-dire dans le nord de la France, au-dessus de Paris. Puis j'ai poursuivi, pareil, professeur de SVT dans l'académie de Toulouse, donc plus dans le sud de la France. Ensuite, je suis devenue CPE, toujours dans l'académie de Toulouse. Et puis j'ai passé le concours de chef d'établissement dans l'académie de Toulouse, puis dans l'académie de Mayotte, puis dans l'académie de Poitiers aujourd'hui. Donc je n'ai pas en tête le nombre d'établissements, le nombre de collèges ou de lycées dans lesquels j'ai exercé, mais je suis certainement plus près de 20 que de 10, puisque en moyenne j'ai passé 3 à 5 ans dans chaque établissement. Donc, presque 40 ans, vous calculerez combien j'ai pu faire d'établissements.
C'est pas mal.
Et vous voyez que je n'ai pas fait le même métier. Alors, je n'ai choisi de faire que des métiers au sein de l'éducation nationale, mais j'ai d'abord été professeur, CPE et chef d'établissement.
Vous savez
D'ailleurs, on ne peut pas être chef d'établissement en début de carrière. C'est un métier que l'on ne peut faire la plupart du temps si on a été professeur avant, ou CPE, ou parfois d'autres missions dans l'éducation nationale, mais on ne peut pas débuter sa carrière en étant chef d'établissement. Est-ce que vous savez comment on devient professeur?
On passe... je crois que d'abord c'est on choisit une spécialité, donc par exemple SVT, on fait 5 ans ou 3 ans d'études et après on passe un concours.
Voilà, c'est ça. Donc il faut bien sûr faire son collège, ensuite aller au lycée général et technologique, seconde, première, terminale. Ensuite, on va faire des études à l'université, en master, donc ça veut dire 4 ans, 5 ans. Ça a changé au cours des temps. Moi, c'était 4 ans à mon époque et maintenant, c'est 5 ans. Et donc, si on veut être professeur d'histoire, on fait un master d'histoire. Si on veut faire un professeur de mathématiques, on fait un master de mathématiques, etc. On fait toutes ces études et à la fin, on a un diplôme, donc on a un master et on peut présenter un concours. Tous les étudiants de France qui ont un master de mathématiques, si ça les intéresse, peuvent passer le concours qui donne droit d'être professeur. Alors, il y a deux concours, soit le CAPES, soit l'agrégation. Et donc, on fait des écrits, on répond on fait pas des examens. Et c'est les premiers qui sont pris, en fonction du nombre de professeurs dont on a besoin cette année-là.
Non, vous avez été pris.
Voilà. Et ensuite, CPE, c'est pareil. On fait des études, alors plus dans le domaine de la psychologie, dans le domaine social ou dans le domaine de la philosophie par exemple, et on passe un concours de CP. Okay. Moi j'ai d'abord passé les concours pour être enseignant, puis les concours pour être CPE, et après pareil, un concours pour être chef d'établissement en lycée ou en collège.
Okay. Fin de cette première partie. Alors, comment vous avez fait pour interroger la principale?
Nous avons demandé son accord pour pouvoir directement l'interroger dans son bureau.
Vous aviez préparé vos questions à l'avance ?
Oui, on avait préparé ça sur deux séances. Une première séance où on a eu les idées et la deuxième séance, on a tout mis au propre.
D'accord, passons à la deuxième partie de votre interview.
Quatrième question, quel est votre parcours scolaire ou et professionnel ?
Alors, j'ai déjà un petit peu expliqué, mais je peux le revenir en détail. Donc, l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée général et technologique. Alors, moi, au lycée, j'ai choisi de faire une classe scientifique, donc plutôt mathématiques et sciences naturelles plutôt. Ensuite, donc, j'ai passé le baccalauréat. Et ensuite, je suis partie à l'université faire une... Donc moi, à l'époque, ça ne s'appelait pas un master, ça s'appelait une maîtrise, mais c'est l'équivalent, une maîtrise de sciences naturelles, où je faisais, par exemple, de la géologie, donc c'est l'étude de la Terre, de la biologie, l'étude des êtres vivants. Je faisais aussi de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain, de la physique, de la chimie... des choses comme ça pendant 4 ans. Et puis après, donc, les concours dont je vous ai déjà parlé, pour être professeur, le CAPES, et ensuite pour être CPE, et ensuite pour être chef d'établissement. Et mon parcours, je crois, ce qui est important et ce que je veux vous transmettre, c'est que j'ai beaucoup bougé, géographiquement aussi. Hein, je suis allée, bien sûr, j'ai fait mon école primaire et mon collège pas très loin de là où habitaient mes parents. Mais après, je suis partie à peu près 150 km pour aller à l'université, dans un autre département. Et puis après, j'ai travaillé dans le même département, la même académie d'Amiens. Puis après, je suis partie dans le sud de la France, donc ça veut dire à 700-800 km de là où j'habitais au départ. Et puis je suis aussi partie... beaucoup plus loin, à des milliers de kilomètres, hein, puisque vous regarderez sur une carte où est située Mayotte. Mayotte, c'est une île française dans l'océan Indien, donc à l'est de l'Afrique, entre l'Afrique et l'Inde, donc c'est quand même assez loin. J'ai aussi eu l'occasion d'aller vivre en Afrique, d'aller suivre mon mari, qui a fait aussi sa carrière de son côté, et donc de temps en temps c'est moi qui le suis, de temps en temps c'est lui qui me suit. Et on a vécu dans plusieurs pays différents. Et je trouve que c'est très enrichissant. Bouger en général, aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est très riche parce qu'on voit des sociétés fonctionner, on voit une école fonctionner différemment. le collège de Mayotte n'était pas du tout le collège de Tony Bouton. Par exemple, il y avait plus de 1000 élèves, avec des élèves qui ne pouvaient ne pas parler français, ou ne pas écrire le français. Des élèves voilà, qui avaient des activités chez eux complètement différentes de celles que vous pouvez avoir, vous. Je pense qu'ils n'allaient jamais au cinéma, je pense qu'ils regardaient très très peu la télévision, ils avaient très très peu de jeux vidéo, ils n'avaient pas de club de foot forcément.
Pas trop. Voilà. Non, moi, chez moi, il n'y a pas trop de jeux vidéo, c'est pas vraiment ce qui me passionne, ni le foot.
C'est quoi tes activités ?
Moi, c'est plutôt tout ce qui est plutôt vers les arts martiaux. Moi, incessamment sous peu, il faut que ma mère donne son accord, mais j'aimerais bien intégrer un club de boxe.
D'accord, super. Mais tu vois, là-bas, dans une petite île, il y a beaucoup moins de clubs, beaucoup moins d'activités possibles, même s'il y en a quelques-unes. Voilà, donc ça, je crois que c'est un point intéressant d'une carrière, de voir ce qu'on appelle la mobilité, les déplacements. Et puis être capable de changer de métier aussi. Parce que vous êtes dans des générations où peut-être vous commencerez par un métier, et puis vous en ferez un autre, puis encore un autre, et des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui dont moi je n'avais pas la connaissance quand j'avais votre âge, n'existaient pas. Par exemple, les métiers de l'informatique, les métiers des médias étaient beaucoup moins développés.
Cinquième question. Quelle étude vouliez-vous faire si à la base vous ne vouliez pas devenir principal?
Alors, comme je t'ai expliqué, au départ, on ne fait pas des études pour être principal. Hein, c'est quelque chose qui vient plus tard, une fois qu'on connaît les autres métiers de l'éducation. Moi, j'ai eu une chance, c'est que j'ai toujours voulu être professeur. Donc, dès petite, voilà, quand je discutais avec mes amis ou avec mes parents, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai tout de suite dit que je voulais être professeur et professeur de sciences naturelles. Donc, je ne me suis pas beaucoup posé de questions. J'ai fait le baccalauréat que j'ai choisi parce que je voulais faire ça. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse un baccalauréat en sciences pour être après en maîtrise de sciences et après un professeur de sciences. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je connais beaucoup de personnes. Mon mari, par exemple, au départ, il ne voulait pas du tout faire le métier qu'il a fait. Et il en a fait... Il a fait des études d'abord de médecine, puis des études de droit, rien à voir. Vous voyez, on a aussi la possibilité de changer, de tester des choses, de se remettre en cause, de remettre en question ses choix. Est-ce que c'est bien adapté? Et ça, longtemps dans sa carrière. Mais j'ai aussi la chance de ne jamais faire des choix par défaut. C'est-à-dire, je n'ai pas non plus fait autre chose que professeur, parce que professeur ne m'intéressait plus. J'ai fait parce que les élèves m'intéressaient plus que les SVT. Donc je me suis dit, CPE, c'est plus proche des élèves, on est plus au courant de la vie qu'ils mènent, on peut plus travailler avec l'élève dans sa globalité. Parce que être professeur, c'est aussi avoir beaucoup d'élèves une heure par semaine. Et avec beaucoup de choses à faire. Son cours, l'orientation, la vie de classe, etc. Donc, on est moins au courant de votre quotidien, de vos problèmes de famille, de vos problèmes de santé. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi un métier très intéressant au sein d'un établissement. Et puis après, chef d'établissement, avoir ce rôle dans la pédagogie aussi, c'est intéressant, dans les projets, dans les actions. Pouvoir réfléchir en équipe, ça m'intéresse aussi beaucoup. Moi, je crois qu'il faut changer aussi. Faire 40 ans la même chose, c'est peut-être, pour moi, ça aurait été peut-être un peu lassant.
Un peu comme chaque activité qu'on fait. Si tous les jours on écoute la même musique, au bout d'un moment on va être lassé.
Peut-être, alors il y en a qui peuvent aussi, je respecte, trouver à faire la même carrière et s'améliorer jusqu'au bout. Mais voilà, il faut savoir que c'est possible.
Après cette deuxième partie, Benjamin et Emrys vont nous raconter comment s'est déroulée l'interview.
On est allé la voir directement dans son bureau pour lui poser les questions et ça s'est plutôt bien passé.
Ok, lançons maintenant la dernière partie.
Nous avons passé sur des questions parce que c'était vraiment uniquement sur votre parcours et sur votre métier. Maintenant, on va plus passer dans les questions un peu plus...
Personnelles.
Je suis libre d'y répondre ou pas.
Bah oui, vas-y.
Sixième question. Comment étiez-vous au collège ou à l'école en général?
Si je me retourne et que je regarde la petite élève que j'étais, je pense que j'étais une élève qui aimait beaucoup l'école. Je pense que j'étais une élève qui a découvert des choses à l'école que je n'avais pas forcément à la maison. J'ai découvert des disciplines que mes parents ne m'enseignaient pas. Mes parents n'étaient pas du tout professeurs de SVT, par exemple. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses à l'école. Moi, je ne me souviens pas avoir été à l'école à reculons. Je me souviens avoir eu des punitions. Hein, par exemple, en sixième, j'ai eu une punition, je me souviens très bien, pour bavardage en études. C'était pas bien grave, hein. Mais voilà, ça arrive.
Pas bien grave. Ouais, je veux rebondir là-dessus parce qu'on nous dit, des fois, on nous interdit de bavarder en études, mais où est l'intérêt à rester une heure et demie scotché comme ça si on n'a rien, si on n'a rien à faire? On ne peut même pas dessiner. Et moi qui est un peu bouge-bouge, rester une heure à lire mon livre, alors, je ne peux pas.
C'est parce que tu t'organises pas assez à l'avance. Parce qu'une heure d'étude, ça se prépare. C'est bête à dire, mais ça se prépare. Ça veut dire qu'on a pensé qu'on allait avoir une heure à faire quelque chose de scolaire. Donc, peut-être un exercice de mathématiques, mais il faut que j'ai mon livre. Donc, si j'ai pas eu mathématiques aujourd'hui, il faut que je le prenne dans mon cartable. Donc, c'est fait pour s'avancer dans son travail personnel. Et puis, pour demander aussi à son voisin s'il peut vous aider, s'il fait le même exercice que vous. Donc, pourquoi souvent certains élèves s'ennuient en études? C'est parce qu'ils n'ont pas anticipé. Mais quand tu vas à un match de boxe, une compétition de boxe, tu as anticipé, tu as ton matériel, ou un entraînement, eh bien, une heure d'étude, ça devrait être pareil. On devrait penser, la veille au soir, tiens, j'ai une heure d'étude, qu'est-ce que je vais y faire? Quelle leçon je vais travailler? Quel exercice je vais pouvoir faire? Après, on peut, vous le savez, demander à aller au CDI aussi. Lire, voilà. Et il y a tout le travail de lecture que vous pouvez aussi faire, hein, en lien avec le parcours, avec l'heure de lecture, là, le quart d'heure lecture, ou vos lectures suivies de votre classe avec votre professeur de français. Mais voilà, c'est parce qu'on manque de préparation. Alors on se retrouve, ah ben mince, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors on bavarde, alors on trouve le temps long, et alors on se fait disputer. Parce que vous devez travailler aussi collectivement, on ne peut pas s'occuper de vous tout seul.
Parce que moi, personnellement, j'ai toujours quelque chose à faire parce que des fois, certes, je ne prépare pas, mais vu que par exemple aujourd'hui je devais réviser des maths, et ben, j'ai demandé justement à mon cher ami de me faire des exercices de maths comme on a l'habitude de faire pour pouvoir à ce que moi je révise et que lui il puisse me corriger parce que du coup il
a déjà fait. C'est un travail qui peut être collectif.
J'ai déjà fait l'évaluation, donc puis comme sur ce qu'on faisait en maths, j'étais pas trop mauvais, je me suis même pas mal débrouillé, je pouvais l'aider.
C'est super de pouvoir s'entraider, il faut le faire.
Bien, nous allons passer maintenant à la dernière question, si vous voulez bien sûr. Que faites-vous quand vous n'êtes pas chef d'établissement?
Alors bien sûr, j'ai une vie de famille, hein, comme tout le monde, même si mon enfant est grand maintenant, voilà, j'ai ma vie personnelle. Alors, ce que je ne fais pas, c'est du sport. Ça, je le regrette un peu, mais je ne suis pas très sportive. Je ne suis plus très sportive. Je l'ai pas trop été, mais j'en ai quand même fait plus quand j'étais plus jeune. Et là, je n'en fais plus beaucoup. C'était une de mes engagements de début d'année, de mes bonnes résolutions. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, au moins à faire un petit peu de sport. Mais sinon, j'ai plutôt des activités dans le domaine de la culture, donc le cinéma par exemple. Je vais, dès que je le peux, au théâtre aussi. Alors que ce soit à Saintes ou à La Rochelle par exemple, il y a des théâtres où on a tout le programme à l'avance et on peut s'organiser pour réserver des places. D'ailleurs, vous y êtes peut-être déjà allé les années précédentes au théâtre.
Malheureusement, non.
Avec le Covid, ça n'a pas pu se faire, mais là, prochainement, il y a une classe qui va y aller.
Non, pour le collège de cinéma.
Si, non, on était allé au théâtre, mais toi, tu n'étais pas allé en cinquième avec la prof.
Alors, je poursuis la question. Et aussi les voyages. Voilà, je suis très intéressée, moi, pour aller voir d'autres pays, d'autres façons de vivre. Alors, soit en y habitant, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit aussi en y voyageant. Alors, c'est pas toujours possible, hein. Et puis ça coûte cher, et puis il y a la question écologique qu'on se pose, parce que ça veut dire, si on va loin, y aller en avion, donc est-ce que c'est pas un peu trop gâcher du kérosène et faire de la pollution quand on part en avion, voilà, je me pose des questions aussi, donc je ne vais pas toujours loin, j'essaye d'alterner entre proche et un peu plus loin.
Après, que vous fassiez ça, c'est génial, mais le problème, c'est que s'il n'y a que vous qui vous dites ça, ok, il y aura une personne de moins sur peut-être 50 passagers.
Sur l'ensemble des gens de la planète, si déjà il y en a 1 sur 50 qui ne voyagent pas toujours, ça sera super. Et puis vous allez pouvoir aussi peut-être construire d'autres projets de vie, faire plus attention à la nature, faire attention à choisir des voitures qui polluent pas, ou des modes de déplacement qui polluent pas du tout, le vélo, etc. Donc chacun doit faire, pour moi dans ce domaine, chacun doit faire sa part
des choses.
Donc faut pas toujours attendre que tout le monde le fasse, parce que sinon on peut attendre longtemps. Merci beaucoup.
Eh ben non, c'est merci à vous d'avoir eu le temps et de pouvoir répondre à toutes nos questions. Et puis ben, cette interview est maintenant terminée. Un dernier mot peut-être.
Mais je vous félicite. Je trouve que vous êtes très bien débrouillé comme intervieweur. Je crois que vous avez préparé de façon sérieuse tout ça, peut-être avec l'aide de vos professeurs. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé de cet exercice.
Je commence ou tu commences ? Bah, moi, j'ai trouvé cet exercice très enrichissant parce que dans un premier temps, il fallait d'abord réfléchir à quelle orientation dans le collège, quel métier est-ce qu'on allait s'orienter entre chef cuisinier, professeur, responsable, j'ai oublié le nom, la secrétaire, ce genre de choses. Et puis bah, moi, je me suis dit, parce que en soi, ces métiers, on connaît un peu, mais principal. Est-ce qu'on s'est vraiment attardé sur la question de qu'est-ce que c'est d'être principal ? Alors moi, je lui ai proposé au début, il avait un peu les chocottes, la principale. J'ai une goutte de cire. Et fait, allez, on tente. Donc,
Vous en êtes très bien sorti. Bravo encore.
C'est la fin de votre interview. Vous n'avez pas eu peur d'interroger la principale ?
Moi, personnellement, si, un petit peu. Au début, quand on arrivait, c'est quand même la principale du collège. J'ai eu un peu les chocottes.
Personnellement, moi aussi, parce que bah, du coup, comme il l'a dit, interroger une principale, c'est pas non plus si facile que ça, vu qu'il faut bien préparer nos questions, vu que c'est pas n'importe quelle personne qu'on pourrait croiser dans la rue ou quoi que ce soit.
Ok, merci à vous d'avoir écouté ce 5e épisode de Tequitois. Merci de votre fidélité. Le prochain épisode arrive bientôt. Qui seront nos invités ? Un peu de patience, à bientôt, au revoir. Aujourd'hui, Tequitois a reçu Emrys et Benjamin. L'émission était animée par Marie et moi, Angelina. À la technique, les deux beaux gosses de 4e, Kendall et Noah. Au revoir à toutes et à tous.